Émile et les détectives par Erich Kästner, quatrième cassette, première face, page 167. Chapitre 17. Madame Tischbein est très agitée. Le lendemain matin, Madame Wirth, la femme du boulanger de Neustadt, sonnait à la porte de Madame Tischbein. « Bonjour, Madame Tischbein, » dit-elle, « comment allez-vous ?»« Bonjour, Madame Wirth, je suis bien ennuyée. Je n'ai pas encore reçu un seul mot de mon garçon. Chaque fois qu'on sonne, je crois que c'est le facteur. Faut-il vous faire une ondulation ?»« Non, je suis venue, » dit Madame Wirth, « parce que j'avais quelque chose à vous communiquer. »« Je vous en prie, » dit Madame Tischbein. « Émile vous envoie tous ses... »«
Grand Dieu, que lui est-il arrivé ? Où est-il ? Que savez-vous ? » s'écria Madame Tischbein.
Elle était terriblement agitée et levait anxieusement les bras au ciel.
« Mais il va très bien, chère madame, très très bien même. Il a attrapé un voleur, pensez donc. Et la police lui a donné une récompense de 1 000 marks. 10 000 francs. 1 million de centimes.
Qu'en dites-vous, hein? Et il faut que vous preniez le train de midi pour Berlin.
Comment savez-vous tout cela?
Votre sœur, Madame Einbold, vient de me téléphoner de Berlin au magasin. Émile m'a dit aussi quelques mots. Il vous attend là-bas.
Maintenant que vous avez tellement d'argent, c'est ce que vous avez de mieux à faire.
Oui, oui, évidemment, murmura Madame Tischbein bouleversée. 1 000 marks pour avoir pris un voleur? Comment a-t-il eu cette idée? Oh, il ne fait jamais que des sottises.
Mais il a été bien récompensé, dit Madame Wirth. 1 000 marks, mais c'est une somme.
Pensez-vous, voyons, 1 000 marks.
Bon, bon, on voit des choses pires. Enfin, partez-vous, Madame Tischbein.
Naturellement, je n'aurai plus un instant de tranquillité tant que je n'aurai pas revu mon garçon.
Allons, bon voyage et prenez bien du plaisir.
« Merci beaucoup, Madame Wirth, » dit Madame Tischbein en fermant sa porte et en hochant la tête. Une surprise plus grande encore l'attendait l'après-midi dans le train de Berlin. En face d'elle, un monsieur lisait le journal. Madame Tischbein était nerveuse, elle regardait à droite et à gauche, comptait les fils du télégraphe qui se balançait devant la fenêtre et aurait voulu courir derrière le train pour le pousser. Il allait trop lentement à son gré. Tout à coup, en tournant la tête, son regard tomba sur le journal que le voyageur lisait en face d'elle.
« Grand Dieu !» s'écria-t-elle,
et elle arracha le journal des mains du monsieur. Il pensa qu'elle était devenue folle et ne se sentit pas très rassurée.
« C'est... » Elle pouvait à peine parler. « C'est mon garçon !»
Et elle montrait une photographie sur la première page du journal.
« Il fallait donc le dire !» s'écria le monsieur ravi. « Alors vous êtes la mère d'Émile Tischbein ?» « Un fameux gaillard. Mes compliments, Madame Tischbein. Mes compliments. »«
Bon, bon, » dit-elle, « couvrez-vous, monsieur, je vous en prie. » Et elle commença à lire l'article. Le titre était imprimé en grosses lettres. « Un tout jeune détective et 100 enfants de Berlin sur les traces du voleur. » Suivait un récit très détaillé de l'aventure d'Émile depuis son départ de la gare de Neustadt jusqu'à la préfecture de police à Berlin. Madame Tischbein était devenue toute pâle, et le journal tremblait dans ses mains. Ce n'était pas le courant d'air qui en était la cause, car la fenêtre était fermée. Le monsieur attendait avec impatience qu'elle eût fini de lire. Mais l'article était très long. Il remplissait presque toute la première page. Au milieu trônait la photo d'Émile. Enfin, Madame Tischbein posa le journal, regarda le monsieur et dit:
« À peine est-il seul, voilà les histoires qui lui arrivent. Et je lui avais tellement recommandé de bien veiller sur ses 140 marques. Comment a-t-il pu être si négligent? Il sait pourtant bien que nous n'avons pas d'argent de reste à nous laisser voler. »
« Il était sans doute fatigué, » dit le monsieur. « Peut-être même le voleur l'a-t-il hypnotisé, endormi en le regardant. Ce sont des choses qui arrivent. Mais ne trouvez-vous pas que ces gamins ont mené l'affaire merveilleusement? C'est vraiment fantastique, génial, sensationnel. »
« Oui, certainement, » répondit Madame Tischbein, flattée. Mon petit est un garçon intelligent. Il est toujours le premier de sa classe. Il est très studieux. Mais songez donc, s'il lui était arrivé quelque chose. Ouh, j'en ai les cheveux qui s'en dressent sur la tête, bien que tout cela soit passé depuis longtemps. Non, je ne pourrai jamais plus le laisser voyager seul. J'en mourrai d'inquiétude.
Est-ce que sa photographie lui ressemble ? Demanda le monsieur.
Madame Tichebagne considéra encore attentivement la photo d'Émile.
Oui, dit-elle, beaucoup. Comment le trouvez-vous ?
Formidable ! S'écria le monsieur. Un vrai gaillard et qui deviendra quelqu'un plus tard.
Il aurait bien pu s'arranger un peu plus soigneusement, gronda la mère. Sa veste fait des plis. Je lui dis toujours de la déboutonner avant de s'asseoir, mais il n'écoute rien.
Oh, s'il n'a pas de plus grave défaut, dit en riant le monsieur.
Non, en vérité, il n'a pas de défaut, mon Émile, répondit Madame Tichebagne.
Dans son émotion, elle se tamponnait le nez. Puis le voyageur descendit. Madame Tichebagne avait gardé le journal et elle relut les aventures d'Émile.
Elle les relut 11 fois de suite.
Quand elle arriva à Berlin, Émile l'attendait sur le quai. Pour faire honneur à sa mère, il avait mis son beau costume. Il lui sauta au cou en criant « Eh bien, qu'en dis-tu ? »
« Ne sois donc pas si vaniteux, polisson, » répondit sa mère.
« Ah, maman, » dit-il en l'embrassant, « je me réjouis tellement de te voir ici. »«
Ton costume ne s'est pas arrangé pendant la chasse aux voleurs, » dit la mère.
Mais sa voix ne contenait pas trace de mécontentement.
« Si tu veux, tu sais, maman, je pourrais avoir un costume neuf. »
« Comment donc ? Un commerçant nous propose au professeur, à Gustave et à moi, de nous donner des costumes, et il annoncera dans le journal que les jeunes détectives que nous sommes ne s'habillent que chez lui. C'est de la publicité, tu comprends ?»«
Oui, je comprends.
Mais nous allons sans doute refuser. Quoi qu'il nous propose au lieu d'un costume, pas drôle, un ballon de football pour chacun, » ajouta Émile en se rengorgeant.
Seulement voilà, tout ce raffut qu'on fait autour de nous, ça tient pas debout. C'est bon pour les grandes personnes, elles adorent ça, mais pour nous, bof.
Bravo, dit la mère.
L'oncle Heimbold a mis l'argent sous clé, continua Émile.
1000 marks, quelle somme.
Avant tout, nous irons t'acheter un séchoir électrique pour les cheveux et un manteau doublé de fourrure pour l'hiver.
Et pour moi ? Faut d'abord que je réfléchisse. Peut-être un ballon de football ou un appareil de photo. C'est à voir.
Il me semble, lui dit sa mère, que nous ferions mieux de déposer cet argent dans une banque. Plus tard, tu en trouveras facilement l'emploi.
Non, tu auras le séchoir électrique et le manteau chaud. Nous placerons le reste, si tu y tiens.
On verra ça, dit la mère en lui serrant le bras. Sais-tu que ma photo est dans tous les journaux ? Et qu'ils ont tous publié de longs articles sur moi.
J'en ai déjà lu un dans le train.
J'ai été très inquiète, Émile. Il ne t'est rien arrivé de fâcheux ?
Absolument pas. C'était génial, je te raconterai.
Mais il faut d'abord que je te présente à mes amis.
Ben, où sont-ils donc ?
Rue Schumann, chez Tante Martha.
Elle a fait des gâteaux aux pommes hier, et nous avons invité toute la bande. Ils sont à la maison en ce moment, et ils s'amusent comme des fous.
Chez les Heimbold régnait un bruit infernal. Tous les gamins étaient là. Gustave, le professeur, Krumbiegel, les frères Mittensrei, Gerold, Frédéric Ier, Traugott, le petit vendredi, etc., etc. On n'avait pas assez de chaises.
Pony Bibi, armé d'un grand pot, versait du chocolat chaud à la ronde.
Et le gâteau aux pommes de Tante Martha, un poème.
La grand-mère, assise sur le divan, souriait et paraissait rajeunie de 10 ans.
Lorsqu'Émile et sa mère entrèrent, on recommença les présentations.
Madame Tichebagne serra la main de chacun et les remercia tous d'avoir si bien aidé Émile.
« Dites donc, déclara Émile, nous n'accepterons ni les costumes ni les ballons. Nous ne permettrons pas qu'on fasse de la publicité sur notre dos. C'est entendu ?
Entendu !
S'écria Gustave, et il corna si fort que les pots de fleurs de Tante Martha en tremblèrent. Puis la grand-mère frappa sur sa tasse avec sa cuillère. Elle se leva et dit : Écoutez-moi, jeunes gens, je vais vous faire un discours, mais n'ayez pas d'illusions. Je n'ai pas l'intention de vous faire des compliments. Les autres vous en ont déjà fait bien trop. Moi, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Les enfants, soudain très silencieux, osaient à peine continuer à manger. Se faufiler derrière un voleur, continua la grand-mère, et se mettre à 20 pour l'attraper, là, vraiment, ça n'est pas du grand art. Est-ce que cela vous vexe, les enfants ? Mais parmi vous, il y en a un qui aurait bien volontiers couru aussi derrière M. Grundeis. Lui aussi, il aurait bien volontiers fait l'espion avec l'uniforme vert du chasseur. Mais il est resté à la maison parce qu'il avait assumé la responsabilité d'y rester. Tous les regards se tournèrent vers le petit Vendredi, très intimidé et rouge comme une écrevisse. Oui, justement, c'est au petit Vendredi que je pense. Justement, dit la grand-mère, il est resté au téléphone 2 jours. Il a su faire son devoir, même si ce devoir ne lui plaisait pas. C'était très beau de sa part. Prenez exemple sur lui, et maintenant, levons-nous tous et crions « Vive le petit Vendredi !» Les gamins bondirent. Pony Bibi mit ses mains en cornet devant sa bouche. Tante Martha et la mère d'Émile sortirent de la cuisine et tous crièrent « Vive le petit Vendredi ! Vive le petit Vendredi ! Vive le petit Vendredi !» Puis tout le monde se rassit. Et le petit Vendredi, après une profonde aspiration, déclara « Je vous remercie beaucoup, mais c'est trop vraiment. Vous en auriez tous fait autant. Évidemment, le devoir... avant tout, basta. » Pony Bibi leva son pot de chocolat bien haut et demanda « Qui en veut encore ? Nous allons boire à la santé d'Émile cette fois-ci. » Chapitre 18. Que nous apprend cette histoire ? À la fin de la journée, les gamins prirent congé. Émile dut promettre solennellement d'aller le lendemain avec Pony chez le professeur. Puis l'oncle rentra et l'on se mit à table. Après le dîner, l'oncle donna les 1000 marks à sa belle-sœur, Madame Tischbein, et lui conseilla de les déposer dans une banque. « C'était bien, en effet, mon intention, » dit-elle. « Non !» s'écria Émile. « Il faut que maman s'achète un séchoir électrique et un manteau doublé de fourrure. Je ne vous comprends pas. Cet argent m'appartient et je peux en faire ce que je veux, oui ou non ?»«
Tu ne peux pas du tout en faire ce que tu veux, » expliqua l'oncle. « Tu n'es encore qu'un enfant. » Et c'est à ta mère à décider pour toi de l'emploi de ton argent. » Émile sortit de table et s'approcha de la fenêtre.
« Grand Dieu, papa, à quoi penses-tu ? » dit Pony Bibi à son père. « Tu ne comprends donc pas la joie qu'aurait Émile à offrir quelque chose à sa mère ? Ah, vous êtes vraiment bouchés quelquefois, vous autres, les grandes personnes. »
« Mais bien sûr qu'il pourra lui donner le séchoir électrique et le manteau, » dit la grand-mère. « Ce qui restera, on le mettra à la banque, n'est-ce pas, mon petit ?»«
Oui, » répondit Émile. « C'est entendu, » dit maman.
« Si tu y tiens absolument, espèce de Richard. »«
Nous irons faire nos achats demain matin. Pony, tu viendras avec nous ?» s'écria Émile, satisfait.
« Penses-tu que je resterai à attraper les mouches en attendant ?» dit la fillette. « Mais il faudra que tu t'achètes aussi quelque chose. Tante Tischbein aura son séchoir. » Mais toi, tu t'achèteras une bicyclette, de façon à ne pas démolir celle de ta cousine en montant dessus.
Émile, interrogea Madame Tischbein inquiète, as-tu cassé la bicyclette de Pony ?
Mais non, maman, je vais seulement un peu remonter la selle. La sienne était ridiculement basse, comme pour un singe. Maintenant, elle aura l'air d'une Amazone.
Singe toi-même, dit Pony. « Si tu détraques encore ma bicyclette, c'est fini entre nous. Tu as compris ?»«
Si tu n'étais pas une fille, si tu étais pas mince comme une allumette, je t'apprendrais à vivre, ma petite, » répondit Émile. « Je ne veux pas me mettre en colère aujourd'hui, d'ailleurs. Mais ce que j'achèterai ou n'achèterai pas avec mon argent, ça ne te regarde pas. »
Et Émile enfonça ses 2 poings dans les poches de son pantalon. Battez-vous, mais ne vous disputez pas, dit la grand-mère avec calme, et la discussion en resta là. Plus tard, Heimbold descendit promener le chien. En vérité, les Heimbold n'avaient pas du tout de chien, mais c'était l'explication que donnait Pony quand son père sortait le soir pour aller boire un verre de bière au bistrot du coin. La grand-mère, les deux femmes, Pony et Émile, étaient restées à la salle à manger. Ils s'entretenaient des dernières journées si pleines d'émotions et d'événements. Cette histoire aura peut-être en fin de compte un bon côté, dit Tante Martha. Bien sûr, répondit Émile, j'en ai au moins tiré une leçon. Il ne faut se fier à personne. Sa mère ajouta, quant à moi, j'en conclus, qu'il ne faut jamais laisser les enfants voyager seuls. Sornette, s'écria la grand-mère, vous n'y êtes pas du tout. Sornette, 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 chanta Pony Bibi, et elle sauta à cheval sur une chaise qu'elle fit courir à travers la chambre. Tu crois donc qu'il n'y a aucune leçon à tirer de cette histoire, demanda la tante Martha. Si, répondit la grand-mère. Laquelle alors, s'écrièrent les deux femmes d'une même voix. Il ne faut envoyer de l'argent que par mandat-poste, dit la grand-mère toute secouée de rire. Bravo, s'écria Pony à cheval sur sa chaise. L'histoire est finie, mais je vais vous expliquer maintenant comment est né ce livre. Je peux bien vous l'avouer, l'idée d'écrire l'histoire d'Émile m'est venue d'une façon très inattendue. C'était un tout autre livre que je voulais écrire, un livre dans lequel on devait voir les tigres claquer des dents de frayeur et les dattes s'entrechoquer avec les noix de coco. Et la petite fille du cannibale, à carreaux noirs et blancs, qui traversait à la nage l'océan Pacifique pour aller à San Francisco chercher une brosse à dents chez Drinkwater et compagnie, D-R-I-N-K-W-A-T-E-R, devait s'appeler Peter Cilly, P-E-T-E-R-S-I-L-I-E, de son prénom naturellement. Je songeais à un vrai roman des mers du Sud. Parce qu'une fois, un monsieur qui portait toute sa barbe m'a dit que vous aimiez beaucoup ces histoires. Les trois premiers chapitres étaient achevés. Le chef de la tribu, Rabenaas, R-A-B-E-N-A-A-S, surnommé le courrier rapide, détachait son couteau de poche, piquait une pomme cuite, mettait dessus du sang froid et comptait aussi vite que possible jusqu'à 497. Soudain, il me fut impossible de retrouver combien les baleines ont de jambes. Je me couchai tout de mon long sur le plancher, position qui est particulièrement favorable pour que je réfléchisse, et je réfléchis. En vain. Alors, je cherchai dans le dictionnaire encyclopédique, d'abord à B, baleine, puis par précaution à M, mammifère, je ne trouvai nulle part mon renseignement. Et cependant, pour continuer mon livre, il me fallait absolument être fixé sur ce point, et avec la plus extrême précision. Car si, à l'instant, la baleine était sortie de la forêt, Rabenaas, dit le courrier rapide, n'aurait jamais pu l'atteindre. Et s'il n'avait pas touché la baleine avec la pomme cuite, la petite fille du cannibale à carreaux noirs et blancs, qui s'appelait Peter Cilly, n'aurait jamais rencontré la chercheuse de diamants, Lehman, L-E-H-M-A-2-N. Et si Peter Cilly n'avait pas rencontré Madame Lehman, la chercheuse de diamants, elle n'aurait pas épousé le valeureux Gutschein, G-U-T-S-C-H-E-I-N, que l'on devait exhiber à San Francisco, chez Drinkwater et compagnie, quand on voulait avoir gratis une brosse à dents toute neuve. Et alors, mon roman des mers du Sud, et il m'avait donné par avance tant de joie, s'écroulait, pour ainsi dire, au pied de la baleine. Vous me comprendrez, j'espère. J'en conçus une peine terrible. Et Mademoiselle Fiedelbogen et T-I-E-D-E-N-B-O-G-E-N, en aurait presque pleuré quand je lui ai raconté ce qui m'arrivait. Mais elle n'en avait pas le temps et dut remettre ses larmes à plus tard, car elle était en train de disposer le couvert pour le dîner. Après, elle n'y a plus pensé. Les femmes sont ainsi faites. J'avais l'intention d'appeler mon livre « Pétersili dans la forêt vierge ». Un titre merveilleux, n'est-ce pas? Les trois premiers chapitres sont chez moi sous un des pieds de ma table pour l'empêcher de basculer. Mais est-ce une situation normale pour un roman qui se passe dans les mers du Sud? Le garçon de café Nietenfuhr, N-I-E-T-E-N-F-U-T-R-E-M-A-H-R, avec qui je m'entretiens parfois de mon travail, me demanda quelques jours plus tard si j'avais jamais été là-bas.
Où ça, là-bas? Demandai-je. Eh bien, dans ces mers du Sud, en Australie, à Sumatra, à Bornéo.
Non, dis-je, mais pourquoi?
Parce qu'on ne devrait écrire, répondit le garçon de café, que sur les choses qu'on connaît et qu'on a vues.
Oh, pardon, cher monsieur Nietenfuhr, mais c'est clair comme le jour. Voyez les Neugebauers, N-E-U-G-E-B-A-U-E-R-S, qui fréquentent notre restaurant. Ils ont pris un jour une servante qui n'avait encore jamais vu préparer de volaille. À Noël, elle devait faire une oie rôtie. Madame Neugebauer s'était sortie pour ses achats. Quand elle est rentrée, quel beau gâchis elle a trouvé! La bonne avait mis l'oie au four telle qu'elle l'avait achetée au marché, sans la flamber, sans l'ouvrir, sans la vider. Une épouvantable puanteur s'en dégageait, je vous le dis à l'oreille.
Oui, et puis après, dis-je. Vous ne prétendez pas pourtant qu'écrire un livre ou faire rôtir une oie, ce soit la même chose. Excusez-moi, mon cher Nietenfuhr, et laissez-moi rire.
Il attendit patiemment que j'eusse fini de rire. Ça ne dure jamais bien longtemps. Puis il me dit,
votre mer du Sud, vos mangeurs d'hommes, vos récifs de corail, tout ça c'est votre oie. Le roman c'est le four dans lequel vous voulez rôtir l'océan Pacifique et la pétersilie et le tigre. Et si vous ne savez seulement pas comment on s'y prend pour faire cuire cette volaille, il se pourrait bien qu'il en sorte une merveilleuse puanteur. Exactement ce qui est arrivé à la bonne des Neugebauers.
C'est pourtant ce que font la plupart des écrivains.
Bon appétit!
C'est tout ce qu'il m'a répondu. Je réfléchis un instant, puis je repris la conversation.
Monsieur Nietenfuhr, connaissez-vous Schiller, S-C-H-I-2-L-E-R? Vous voulez parler de Schiller, le magasinier de la brasserie Waldschlösschen, W-A-L-D-S-C-H-L-O-T-R-E-M-A-2-S-C-H-E-N?
Non, pas du tout. Je parle du poète Friedrich von Schiller, qui a écrit une quantité de pièces de théâtre il y a plus de 150 ans.
Ah bon, ce Schiller-là, celui qui a tant de statues,
justement. Eh bien, il a fait une pièce qui se passe en Suisse et qui s'appelle Guillaume Tell. Autrefois, tous les enfants à l'école faisaient des devoirs sur Guillaume Tell.
Oh, j'en ai fait aussi, dit Nietenfuhr. Je connais bien Tell. Oh, un drame magnifique, vraiment. Il faut rendre cette justice à Schiller. C'est tout ce qu'il y a de bien.
Mais que ces devoirs étaient terribles. Il y en a un dont je me souviens encore aujourd'hui. Ça s'appelait... Pourquoi Tell n'a-t-il pas tremblé pendant qu'il visait la pomme qui était sur la tête de son petit garçon? J'ai eu un 5 sur 20. Ces devoirs-là, ça n'a jamais été mon fort.
Oui, mais revenons à notre sujet. Eh bien, voyez-vous, cher monsieur Nietenfuhr, quoique Schiller ne soit jamais allé en Suisse, sa pièce de Guillaume Tell est absolument exacte.
Eh bien, sans doute avait-il commencé par lire des livres de cuisine.
Des livres de cuisine.
Bah, évidemment. Tout était dedans. Les hauteurs des montagnes en Suisse, à quel moment la neige fond, et comment ça se passe quand il y a un orage sur le lac des Quatre Cantons, et l'histoire des paysans qui se sont révoltés contre leur gouverneur, Gessler, G-E-S-S-L-E-R, et qui ont fait la révolution. Vous avez certainement raison, Nittenfur. Schiller a lu tout ça. Vous voyez bien, triompha Nittenfur en pourchassant une mouche avec sa serviette. Si vous faites la même chose, et si vous lisez beaucoup de livres, alors vous pourrez très bien écrire votre histoire de kangourou en Australie.
Mais je n'ai pas du tout envie de faire ça, dis-je. Si j'avais assez d'argent, je voudrais aller là-bas et regarder tout moi-même, attentivement, sur place, me lire des livres.
Écoutez, monsieur Kestner, je vais vous donner un conseil de premier ordre. Le mieux serait que vous écriviez sur ce que vous connaissez. Sur le métro, par exemple, sur des hôtels, des choses de ce genre-là. Sur des enfants, comme ils vous en passent tous les jours sous le nez, comme nous l'avons été nous-mêmes autrefois.
Ouais, dis-je. Mais quelqu'un qui avait une grande barbe et qui connaît les enfants comme sa poche m'a déclaré que ça ne les intéresserait pas.
Quelle erreur, grogna M. Nittenfur. Vous pouvez m'en croire. Moi, j'ai des enfants, deux garçons et une fille. Et quand je leur raconte, pendant mon jour de repos, ce qui est arrivé ici dans le restaurant, comment un tel a filouté sa note, ou l'histoire de ce client l'autre jour, qui en voulant faire une farce au jeune chasseur a attrapé une dame qui passait au même moment, je vous assure qu'ils écoutent de toutes leurs oreilles.
Alors vous croyez, monsieur Nittenfur, dis-je mal convaincu.
Sûrement. J'en mettrai ma main au feu, monsieur Kestner. Et il disparut, car un client tapait sur son verre avec son couteau et voulait régler sa note. Et voilà pourquoi, parce que le garçon de café Nittenfur l'a voulu ainsi, j'ai écrit une histoire sur des choses que nous connaissons tous depuis longtemps, vous et moi.
Je suis alors rentré chez moi. Je mis un instant à la fenêtre, je considérais la rue de Prague et je pensais que peut-être l'histoire que je cherchais allait passer en bas devant moi. Je lui aurais fait un signe et je lui aurais dit « Montez donc d'un bond jusqu'ici, je vous en prie, je voudrais bien vous écrire. » Mais l'histoire ne vint pas et je commençais à avoir froid. Alors je fermai violemment la fenêtre et fis 50 fois le tour de la table en courant. Cela non plus ne me fut d'aucun secours. Enfin, je me couchai de tout mon long, encore une fois sur le plancher, et me plongeai dans de profondes méditations. Quand on est ainsi allongé au milieu d'une pièce, le monde prend une toute autre physionomie. On aperçoit des pieds de chaise, des pantoufles, les fleurs des tapis, des cendres de cigarettes, des flocons de poussière, des pieds de table. On retrouve même sous le sofa le gant droit que l'on cherchait vainement dans l'armoire depuis 3 jours. Plein de curiosité, étendu par terre dans ma petite chambre, je voyais d'en bas les choses que d'habitude je vois d'en haut. Et je remarquais à mon grand étonnement que les jambes des tables ont des mollets, de vrais mollets, vigoureux et bruns comme s'ils appartenaient à des Africains ou à des écoliers aux chaussettes foncées. Et tandis que j'étais là à compter les pieds des tables et des chaises, afin de savoir combien d'Africains ou d'écoliers piétinaient mon tapis, tout à coup me vint à l'idée l'histoire des mille. Peut-être parce que je pensais justement à des écoliers aux chaussettes brunes, ou bien à cause de son nom de famille, Tischbein. Tischbein, en allemand, veut dire pied de table. Quoi qu'il en soit, c'est à ce moment-là qu'Émile survint avec toute son histoire. Je restais bien tranquille. Il en est des pensées et des souvenirs qui s'approchent de nous, comme des chiens que l'on vient de corriger. Si l'on fait un mouvement brusque, si on leur parle, si on tente de les caresser, ils s'enfuient. Vous pouvez attendre alors avant qu'ils osent se rapprocher. Je me gardais donc bien de bouger et m'efforçais d'accueillir l'intruse avec un sourire engageant. Je désirais l'encourager. Elle prit confiance, en effet, devint presque familière et se rapprocha d'un pas, puis d'un autre encore. Alors je la saisis à la nuque, je la tenais. Par la nuque, c'est-à-dire par un bout. Pas plus pour le moment. Tenir un chien vigoureusement par la peau du cou ou ne tenir qu'une histoire dont on se souvient, ça n'est pas du tout la même chose. Tient-on un chien par la peau du cou, on est plus ou moins maître de tout l'animal, les pattes, la gueule, la petite queue et tout le reste. Les souvenirs s'attrapent autrement. On les prend par bribes. Quelquefois, on commence par une touffe de cheveux, puis arrive la patte de devant gauche, puis la droite, puis l'arrière-train, morceau par morceau. Et au moment où l'on croit l'histoire complète, survient tout à coup un petit lobe d'oreille bien roulé. Alors, enfin, si on a de la chance, on tient le tout. J'ai vu un jour au cinéma quelque chose qui me rappelle beaucoup ce que je suis en train de vous expliquer. Il y avait un homme dans une chambre et il n'était vêtu que d'une chemise. Tout à coup, la porte s'ouvrit et son pantalon fit irruption. Il l'enfila. Puis la botte gauche traversa l'air en sifflant. Puis la canne, puis le collet et la cravate, puis la veste, et une chaussette, et la seconde botte, et le chapeau, et l'autre chaussette, et les lunettes. Il était affolé. À la fin, cependant, l'homme se trouvait correctement vêtu. Tout était en place. Fin de la première phase de la quatrième cassette, page 180.